France Culture.
L'océan, notre sauveur, lui qui couvre plus de 70% de la planète, qui produit 50% de l'oxygène que nous respirons et dont l'équilibre est notre assurance-vie, il est primordial de mieux le connaître si nous voulons mieux le protéger. Mais pourra-t-il absorber plus longtemps le CO2 émis par l'humanité, survivre à nos pollutions et résister à nos prédations? Partout dans le monde, nombreuses sont les voix qui éclairent, alertent et appellent les décideurs à agir. Alors, de sa mécanique à sa gouvernance, comment sauver l'océan, notre commun. Nous poursuivons notre série de podcasts avec aujourd'hui Laurent Chauveau, directeur de recherche au CNRS. Il est basé à Brest, au sein de l'Institut universitaire européen de la mer. Il est cofondateur du groupement de recherche OMER. Il est également auteur du livre La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, un livre paru aux éditions Équateur. Et avec lui, nous allons découvrir l'orchestre polyphonique qu'est l'océan, bien loin du monde du silence, percer le mystère des sons émis, entendre les voix de l'océan, victime de nos activités et pollutions anthropiques. Et puis nous accueillerons Françoise Gail, biologiste et océanographe. Elle est aussi vice-présidente de la plateforme Océan et Climat et elle est l'une des fondatrices de l'AIPOS, la plateforme internationale pour un océan durable. Elle est coéditrice de l'ouvrage L'océan a découvert, un livre collectif paru aux éditions CNRS. L'océan au sommet, plus que jamais. Bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar et Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Valentin Bobinet. Bonjour Laurent Chauveau.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre concrètement ?
Faut un petit peu d'imagination là. Vous êtes en Antarctique, plus exactement en Terre Adélie, et essayez d'imaginer qu'on a déposé sous 3 mètres de glace par 20 mètres de fond un hydrophone qui enregistre des bruits de glace, la banquise qui se craquelle ou des icebergs qui commencent à fondre. À moins d'un kilomètre de là, le glacier Astrolabe fournit également des basses fréquences. Il a, dans son mouvement de glace, l'aptitude à produire des grondements. Et par-dessus ces sifflements, ce sont des bruits de phoques de Weddell qui sifflent quelques hormones et la période de reproduction. Et voilà des animaux qui ont appris à communiquer en utilisant le sifflet. C'est un son finalement, somme toute, très simple à expliquer. La houle a la possibilité de soulever la glace jusqu'à 200 km dans la banquise quand vous dirigez vers la Terre. Et donc, ces 3 mètres de glace se soulèvent sous l'effet de la houle. Et en fait, une banquise n'est jamais complètement homogène et il y a des fissures. Et là, vous êtes à la jonction entre deux plaques qui bougent l'une par rapport à l'autre. Et ce bruit de porte ou ce bruit de grincement est un bruit de soulèvement de banquise sous l'effet de la houle.
Alors l'océan a beaucoup à nous dire. Il est tout sauf le monde du silence, resté dans les imaginaires.
Bien sûr, il est maintenant admis que le commandant Cousteau avait tort. C'est pas le monde du silence, c'est clairement un environnement où à la fois la géophonie, c'est-à-dire la pluie, la houle ou les tremblements de terre introduisent du bruit, mais également la biologie. Vous connaissez, tout le monde connaît le chant des baleines, le chant des dauphins, les sifflements que vous avez entendus de phoques divers et variés, et que l'on appelle la biophonie, oui, sous-marine. Et dans la biophonie, les biologistes ont oublié pendant un certain nombre d'années, voire de siècles, que les invertébrés introduisaient du bruit. Ça, c'est le premier élément. Donc, des coquilles Saint-Jacques font du bruit, les homards font du bruit, les langoustes sont incroyablement sonifères, et une langouste en Bretagne est audible à plus de 1 km. Ça en fait des animaux qui produisent des sons puissants, qui sont audibles, évidemment, entre eux. Et on n'est pas très très loin d'imaginer que ces animaux communiquent en utilisant des sons et que ces communications chez les arthropodes, ces animaux-là vont inventer la production sonore et l'utilisation du son dans leur biologie bien avant la sortie de l'eau.
Alors une coquille Saint-Jacques, ça fait quel bruit ?
Alors la coquille Saint-Jacques, ça fait plusieurs types de bruits, dont un qui est caractéristique, qui correspond à un bruit de turbulence. Exactement le même bruit que fait votre air quand il sort de vos poumons. Vous voyez, c'est le fait d'agiter l'air et de provoquer de la turbulence génère un bruit de souffle. Et une coquille Saint-Jacques, quand ça ferme brutalement ses valves, l'eau sort brutalement de cette cavité paléale, sort brutalement de son corps et finalement provoque un bruit de type souffle. Et vous entendez comme un souffle de baleine, alors évidemment amplifié énormément, mais ce souffle est caractéristique d'une activité. Vous arrivez même à dire ce qu'était en train de faire cette coquille Saint-Jacques en l'écoutant. Elle était en train de nager, de fuir, de tenter de s'orienter un peu mieux dans le courant ou de nettoyer ses branchies. Elle a cette solution de cet organe bizarre chez les mollusques bivalves qui consiste à respirer, qui sert à respirer en même temps qu'à manger. Vous voyez, dans la branchie a une double fonction et je dirais de façon un peu triviale, s'encrasse. Ouais, et la façon de nettoyer ce filtre assez régulièrement, c'est une fermeture brutale. Cette fermeture brutale qui fait passer de l'eau brutalement au travers de ce filtre provoque un son caractéristique.
Laurent Chauveau, une biodiversité marine que nous méconnaissons totalement. Pourquoi ? Parce que l'humanité a tendance à tourner le dos à l'océan. Ça me fait penser à la phrase que vous mentionnez hein, d'Éric Tabarly, qui disait en son temps « Pour les Français, la mer, c'est le truc que nous avons dans le dos lorsque nous sommes à la plage ».
Je crois que ça reste vrai. C'est très triste à dire. Alors peut-être pas à la pointe du Finistère, peut-être pas chez les Bretons, où on envoie une image de cette Bretagne avec des gens très ancrés sur la mer, mais c'est vrai pour notre pays. Et c'est vrai en général pour nos concitoyens ou nos contemporains. La mer est finalement assez peu connue, peu partagée en termes de connaissances. Et alors cette biodiversité sous-marine qui correspond à, allez, grosso modo 250 000 espèces, ouais, à comparer à quelques millions sur la partie émergée, avec cette idée qu'il nous reste le double à découvrir, qu'on en découvre en milieu marin 2000 par an et qu'il nous reste encore beaucoup de travail pour décrire cette biodiversité. Elle interroge cette biodiversité parce que dans quelques environnements, on va rester en Bretagne, comme les bancs de merles bretons, on oublie, ou notre communauté, y compris les bretons, oublie qu'il y a là un peu plus de 1000 espèces qui se développent et qui sont pas endémiques. C'est-à-dire que ces animaux qui vivent dans les bancs de merles, c'est-à-dire dans ces bancs fabriqués par des algues calcaires avec une croissance incroyablement lente, qui va être une croissance qui va se rapprocher de la lenteur des nodules polymétalliques, cette croissance lente autorise l'installation de 1000 espèces, 1000 espèces qui doivent être considérées comme une espèce de banque spécifique. Ouais. Et les bancs de merles bretons présentent une biodiversité qui nous permet d'imaginer un avenir, si on est capable de les protéger, un avenir où on est capable de bancariser ou de protéger ou de sanctuariser une biodiversité que nous ne connaissons pas encore et une biodiversité qu'il nous faut absolument protéger.
Rappelez-nous peut-être quels sont les dangers mortels hein, pour cette biodiversité et qui résultent de facteurs anthropiques.
On a quelques exemples de lieux azoïque qu'on a réussi à au large du Pou ou au large en mer du Nord, on est capable de faire diminuer la quantité d'oxygène à des niveaux tellement bas que aucune espèce ne peut résister. Ça, on est capable de le faire si on introduit suffisamment d'azote dans l'environnement marin, notamment des nitrates ou de l'ammonium, donc des urines ou des excréments d'élevage industriel et ou de nos villes pour provoquer des anoxies complètes.
Ça ouais. Devient des zones mortes alors.
Des zones mortes, ouais. Ça, c'est possible. Première attaque. Ensuite, évidemment, des pollutions diverses. C'est vrai avec des pesticides et c'est vrai avec des métaux lourds ou avec une attaque franche sur la biodiversité par des pollutions diverses. Et là-dedans, on doit introduire la notion de pollution émergente. Dans les pollutions émergentes, de moins en moins émergentes parce que on les appelle émergentes parce qu'on les découvre, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas là depuis longtemps. Sont apparus les microplastiques, sont apparus les plastiques et aujourd'hui les pollutions sonores.
Alors les pollutions sonores, ce sont les bruits de la navigation, mais aussi les exploitations pétrolières ou autres. C'est tout ce qui vient perturber de façon sonore, c'est tout ce qu'on construit aussi ou à proximité de...
Oui, si vous posez un micro, je vais revenir sur la Bretagne qui force les imaginations, mais c'est vrai à Saint-Pierre-et-Miquelon ou c'est vrai en Polynésie. Si vous posez un micro dans l'eau, vous entendez votre grand-père partant à la pêche au maquereau, donc les bateaux de plaisance font du bruit, les scooters de mer sont des machines à faire du bruit, et puis bah, tous les bateaux de pêche, tous les bateaux de transport, les bateaux militaires et la construction portuaire, mais aussi aujourd'hui la construction d'éoliennes offshore ou le tranchage associé à l'installation de câbles. Donc les activités industrielles au large ou les activités portuaires ou le transport maritime introduisent des niveaux sonores qui sont totalement nouveaux à l'échelle géologique, nouveaux pour notre planète.
Pour donner peut-être un ordre de grandeur, des bateaux qui génèrent des bruits de basse fréquence, c'est équivalent au bruit d'un avion en réaction au décollage ?
Voilà, donc le niveau sonore accepté par les coquillages que vous allez manger sur votre plateau de fruits de mer sont assez délirants. Hein. On obtient des niveaux sonores au-delà de 200 décibels lorsqu'on fait un battage de pieux et qu'on installe une éolienne ou qu'on construit un port. Et au-delà de 170 décibels, quand un bateau passe à la verticale d'une coquille Saint-Jacques.
Dites-nous, Laurent Chauveau, comment est-ce que vous qui êtes aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, vous avez plongé dans cette nouvelle discipline, la bioacoustique marine, le déclencheur ?
Cette question me ramène à des études longues. J'ai travaillé sur cette histoire de coquille Saint-Jacques et transformé la coquille Saint-Jacques en une archive environnementale en regardant dans son squelette les marques du temps à l'échelle journalière et à l'échelle annuelle. Et on a commencé à s'intéresser et à rétro-calculer la vitesse de rotation de la Terre avec les valves d'une coquille Saint-Jacques ou la pollution au gadolinium issue des IRM parce que vous introduisez dans vos veines du gadolinium pour augmenter les contrastes d'une image de votre cerveau par IRM. Quand vous allez aux toilettes 2 heures plus tard, vous introduisez en mer du gadolinium qui se retrouve dans des coquilles Saint-Jacques et qu'on est capable, grâce à notamment un géochimiste génial qui est Jean-Alix Barra à Brest, de rétro-calculer l'histoire de la contamination. Et je pourrais vous parler de comment la coquille Saint-Jacques est devenue une sentinelle de l'océan et comment on a réussi à prouver qu'une espèce à intérêt commercial avait un intérêt en recherche fondamentale et finalement, en termes de biens et services rendus à l'humanité, une toute autre valeur. Elle participe avec la coquille Saint-Jacques. On peut calculer la température de l'eau de mer tous les jours et à Saint-Pierre-et-Miquelon toutes les 10 minutes pendant 5 ans. Et donc, un animal qui est là depuis 25 millions d'années, vous êtes capable d'ouvrir une fenêtre il y a 25 millions d'années et de calculer il y a 25 millions d'années la température de l'eau de mer tous les jours avec une précision de 0,3 degrés.
C'est comme les carottages qui sont faits dans la glace.
C'est comme si vous étiez capable que dans un autre genre. C'est ce qu'on appelle une archive environnementale, mais à une échelle journalière. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le pétanque géant du Canada, avec un laser, vous autorise à descendre à l'échelle de 10 minutes. Ouais, donc, toutes les 10 minutes, avoir des informations sur les propriétés de l'eau, dont les pollutions dont nous parlions tout de suite. Ce qui m'intéressait là, c'était finalement de savoir pourquoi l'animal fabriquait une strie ou une marque journalière. Et donc, j'ai essayé de la filmer. On a inventé des systèmes d'accéléromètres qui mesuraient ses mouvements avec l'idée qu'elle devait avoir la possibilité d'arrêter de bouger. Et arriver l'idée que finalement, au lieu de lui mettre des capteurs, de lui faire des misères, il suffisait de l'écouter. Et en écoutant les coquilles Saint-Jacques au laboratoire, on a découvert qu'elle était audible, ses mouvements étaient perceptibles, les mathématiques et l'IA pouvaient nous renseigner sur comment un signal un peu complexe qu'est un signal sonore pouvait être décortiqué en écologie et en comportement animal. Et on est passé, évidemment, quand on a eu l'idée d'aller écouter in situ en rade de Brest ou à Belle-Île-en-Mer les coquilles Saint-Jacques, on a entendu des araignées, un bruit tout autour que les acousticiens connaissaient et que moi, je ne connaissais pas. Je suis plongeur, mais je ne connaissais pas ces sons. Et finalement, le paysage sonore qui entoure une coquille Saint-Jacques a ouvert une porte de recherche en inversant le problème sur l'impact du bruit sur la biologie de ces animaux ou tout simplement en travaillant sur pourquoi un homard a besoin d'entendre. Et j'arrive jusqu'au stade où comment ces animaux entendent, qu'est-ce qu'ils entendent. Et ça va vous paraître dingue, mais il y a 10 ans, je me posais la question avec mes collègues de Brest, c'est quoi l'audiogramme d'une coquille Saint-Jacques ? Avant de se poser la question, c'est quoi l'impact de notre bruit, d'un bruit de bateau, d'un scooter de mer ? Ouais, quel est l'audiogramme ? Est-ce qu'il entend et vrai pour un homard ? Et où sont les oreilles d'un homard ? Ça c'était assez motivant et finalement ces sons ouvre cette appétence vers la mer, beaucoup plus que les images, beaucoup plus que peut-être la voile, beaucoup plus que la surface. Les sons sous-marins font plus rêver ou sont plus dans le sensible et dans le poétique ou dans la poésie ou dans les esthétiques intimes, beaucoup plus que les images.
En sachant que tout ça part d'un sujet de thèse pour comprendre pourquoi il y avait un dépeuplement de la rade de Brest en coquille Saint-Jacques, donc l'intérêt économique au départ de vos travaux, bah sinon je crois que vous auriez probablement eu un autre sujet, et donc cet intérêt économique vous a amené à devenir ce capteur, bricoleur, technicien, géotrouve-tout, peut-être par certains moments, pour nous rendre ce monde non silencieux.
Une coquille Saint-Jacques a pas 100 000 comportements différents, mais de façon très basique, remue deux valves comme on ouvrirait une boîte de camembert. Donc l'astuce qui a été trouvée, c'est d'utiliser l'accéléromètre qui se trouve dans votre téléphone, celui qui permet l'affichage en mode portrait ou en mode paysage. Le même nous permet d'enregistrer jusqu'à, là aujourd'hui, 25 fois par seconde les mouvements d'une coquille Saint-Jacques et donc ses fermetures et son aptitude à nager, son aptitude à se déplacer, tous les comportements de cette coquille. Pour monter l'équivalent d'une structure de concert comme les vieilles charrues, on pourrait mettre du gros son sous l'eau. Ouais, c'est un peu ça l'idée. On va les laisser 4 jours sans bruit, et le 5e jour, on émet des bruits de battage, des bruits de forage, des bruits industriels, d'installation d'éoliennes, et on va faire ça pendant 2 jours, puis à nouveau, on va laisser les coquilles Saint-Jacques se reposer pendant une petite semaine, et c'est la différence entre les périodes où elle sera avec du bruit, avec les périodes où elle est dans le silence, qui nous intéresse, cette différence de mouvement.
Capteur de son, comment vous vous définissez, Laurent Chauveau ?
Oh, je suis vraiment, vraiment écologiste marin. ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement des écosystèmes. Et je sais bien que j'envoie l'image d'un chercheur un peu obsessionnel travaillant sur les coquilles Saint-Jacques, mais faut essayer d'imaginer que c'est un outil qui permet de réfléchir sur comment un invertébré réagit et renseigne à des variations de son environnement, en comprenant que l'environnement marin côtier est un environnement incroyablement variable. Et il n'est pas si facile que ça de déconvoluer l'impact qu'ont les variations de la température, les variations de la nourriture, les variations de la lumière ou la présence-absence de prédateurs dans le comportement et la biologie de ce genre de bestioles. Et quand on arrive à faire ça, on arrive à essayer de prédire ce qui va se passer avec un changement climatique, une acidification, une diminution de la quantité d'oxygène ou, ce qu'on fait très très bien, une introduction d'espèces nouvelles, un prédateur nouveau ou une espèce qui va être en compétition avec lui. Alors en Bretagne, on est armé sur ce genre de concept parce que on a introduit la crépidule, on a introduit et on continue à introduire principalement par l'ostréiculture, un petit peu par les coques les ballasts de bateaux, mais voilà, une pollution globale également. L'introduction d'espèces et le déplacement d'espèces, c'est dans le génie humain.
Alors techniquement, si je comprends bien, l'invention de l'accéléromètre, c'était pour suivre les parcours des coquilles Saint-Jacques, parce qu'elles se déplacent. Vous avez aussi utilisé des hydrophones de la Défense nationale. Alors, c'est quoi le dispositif ?
Bon, en fait, un accéléromètre mesure tout simplement, comme vraiment quand vous agitez votre téléphone pour changer son affichage, mesure la position de votre téléphone par rapport à la Terre. Si vous le miniaturisez, vous lui mettez un petit peu d'énergie et de la mémoire, cet accéléromètre, vous le collez sur une coquille Saint-Jacques et il vous décrit tous les mouvements en X, Y, Z, dans les trois dimensions et dans le temps, pendant des périodes aujourd'hui qui peuvent durer un an. Vous avez l'information sur comment elle bougeait. Mais c'est super intrusif. Vous êtes en train de coller un capteur sur une coquille Saint-Jacques. Il va falloir, il n'y a pas de colle qui colle sous l'eau facilement. Donc vous la sortez de l'eau, vous la stressez, bon. C'est un peu lourd comme protocole. Il était plus simple et tentant de l'écouter. Et à Brest, vous êtes en contact avec les écoles d'ingénieurs de l'armement. Et des réunions de scientifiques, de partage de sciences se font assez naturellement, localement, entre l'ANSIETA et l'Université de Bretagne Occidentale. Et finalement, de ces réunions naissent des collaborations improbables. Et la collaboration avec ceux qui s'intéressent à l'acoustique pour des raisons de défense, vous aboutissez à la phrase, tu sais Laurent, écoutez une crevette ou un sous-marin, c'est la même méthodologie, les mêmes mathématiques, et on va y arriver à écouter des coquilles Saint-Jacques. Et finalement, c'est le même matériel.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris de ces sons ? Parce que ces sons, ils ont des raisons d'être. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, non seulement les capter, mais les décoder et comprendre ce qui se passe dans leur communauté ou face à d'autres.
Alors, il y a deux grandes découvertes faites, dans les deux dernières années ou trois dernières années. Évidemment, l'évolution a fait que ces animaux sont sensibles et utilisent le son probablement plus que la lumière. sous l'eau dans leur biologie. Et j'ai un exemple qui est assez frappant, c'est la vie larvaire. Tous ces animaux, ces invertébrés qui vivent sur le fond ont, dans l'immense majorité, une phase de leur vie qui est planctonique. C'est-à-dire, ils émettent des gamètes, des ovocytes et des spermatozoïdes, il y a fécondation dans la colonne d'eau, et une larve se développe. Et le truc, c'est que cette larve doit trouver l'habitat, l'environnement, qui est propre à son développement adulte. C'est-à-dire qu'une moule peut pas facilement se développer sur de la vase, elle pourra même pas le faire. Il va falloir qu'elle choisisse l'endroit où elle va se métamorphoser de façon assez cohérente avec ce que va devenir sa vie une fois fixée sur le fond. Et en fait, on découvre que les invertébrés larvaires, au stade larvaire, utilisent les paysages sonores pour se fixer. Et une coquille Saint-Jacques est sensible au bruit au stade larvaire. Une moule, si vous lui faites écouter des basses fréquences, change son taux de métamorphose et la vitesse à laquelle elle va se métamorphoser et l'efficacité à laquelle elle va se métamorphoser dépend de ces basses fréquences, des sons sourds qui vont, alors dans l'hypothèse, je vais parler un petit peu sans preuve, probablement avec cette idée de reconnaissance des milieux battus de la Bretagne, des environnements où les moules se fixent, qui correspondent à des bruits de vagues frappant la roche. Les larves, on est certain, sont sensibles au bruit et donc sensibles au bruit de bateau. On est avec, comme d'habitude en écologie, des animaux qui sont très sensibles au son, d'autres indifférents et d'autres qui trouvent un bénéfice. Ce sera le cas de notre moule. Si vous lui faites écouter le bruit d'un petit Volvo du gars qui va pêcher ses maquereaux avec un bruit sourd de boum, 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 boum. Ce bruit qui est dans quasiment la mythologie du marin breton partant à la pêche. Ouais, ce bruit sourd est utile aux moules et pas du tout aux coquilles Saint-Jacques. Les moules vont trouver un avantage, je ne sais pas si ça s'appelle un avantage, mais vont se trouver une stimulation dans ce son, alors qu'on va voir une inhibition, notamment dans la gamétogénèse, avec des femelles qui vont émettre moins de larves et à l'issue de ce traitement sonore. Ouais, chez les coquilles Saint-Jacques.
Donc les sons des organismes marins dits sonifères servent à se repérer, à communiquer, à permettre l'alimentation, à éviter des obstacles?
Oui, on a un très bel exemple en Bretagne et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est le homard. Le homard est un animal belliqueux. Ouais, si vous achetez un homard, vous verrez que les pêcheurs ont mis des élastiques sur les pattes pour pas qu'ils se battent dans le vivier ou dans l'aquarium de votre poissonnier. Et en fait, c'est des animaux qui ont une nécessité de se battre, comme le feraient des loups, ou comme le feraient des lions, ou comme le feraient, vous voyez, ou des éléphants dominants. Avec cette idée d'accès à la nourriture ou d'accès à un trou, c'est l'animal qui vit dans des refuges, et d'accès à la reproduction. Nourriture, reproduction ou abri, c'est les trois raisons pour lesquelles les homards ont besoin de marquer leur territoire. Et dans la façon de marquer leur territoire, il y a, comme chez le chien, la nécessité d'uriner. On a aussi la nécessité d'émettre un son, comme le chien ou comme le lion ou comme le cerf. Et finalement, les animaux dominés émettent des sons à destination des dominants pour éviter de se battre. Je reconnais que c'est toi le plus fort et j'émets un son qui est un bourdonnement clairement audible, facile à enregistrer, hein, qui est un bourdonnement issu des antennes. Et l'animal dit « Je reconnais ta priorité, tu es prioritaire pour, là, je répète, la reproduction, cet abri, ce refuge et pour la nourriture. » Si vous faites passer un bruit et vous augmentez les bruits que les hommes sont capables d'introduire
extérieur, voilà, anthropique, donc, comme on dit.
L'anthropophonie augmente, vous organisez un masquage sonore et ce masquage sonore induit des modifications dans le comportement de ces homards. Les cétacés, on sait qu'introduire du bruit, c'est modifier l'alimentation, c'est modifier la géolocalisation, c'est modifier les migrations, c'est modifier le comportement de groupe. C'est vraiment un impact direct jusqu'à la lésion des organes qui permettent l'audition. Alors, avec des effets transitoires ou complètement pérennes, avec une possibilité de cicatrisation ou pas du tout. Bon, la littérature regorge d'informations sur notre folie en termes d'introduction de bruit dans le milieu marin. Il n'est pas inintéressant de noter que pendant le siècle qui vient de s'écouler, on a fait un effort monstrueux pour expliquer les impacts du bruit sur ces mammifères, en gros sur les animaux qui avaient des vertèbres, ça va jusqu'aux poissons, et chez les invertébrés, on a oublié que on ne sait pas quel est l'impact du bruit sur le phytoplancton, sur les bactéries, et on ne sait pas quel est l'impact du bruit sur l'immense majorité des invertébrés qui se développent au fond.
Et en France, il n'existe pas de réglementation en termes de limite du niveau sonore?
Non. On a une directive cadre stratégique milieu marin qui, dans son descripteur 11, si ma mémoire est bonne, nous impose de surveiller les niveaux sonores et d'en limiter l'anthropophonie ou les impacts anthropiques, mais on a quelques directives et c'est tout.
Qu'est-ce que vos travaux ont ouvert comme possible voie dans cette démarche justement de mieux protéger l'océan et son vivant ?
Moi, je crois vraiment que cette idée d'enregistrer des sons et de donner à écouter des sons, après avoir fait pendant 20 ans des recherches, et on doit être quelques milliers sur Terre à faire des recherches prouvant notre aptitude à introduire des polluants divers, à jouer avec le feu, et à essayer de communiquer ces informations à nos décideurs, à nos concitoyens ou à nos contemporains. Il y a, avec le son et avec cette pollution sonore, un fait nouveau qui est, il est possible, en faisant écouter des sons et en travaillant sur cette acoustique, de partager l'océan via la chanson, via la musique, via quelque chose qui ressemble pas beaucoup à la science, mais qui va être art et science, avec ou art science, avec une nouvelle fusion qui nous rapproche du XVIIe, XVIIIe siècle, quelques humanités pour l'océan et quelques philosophies mélangées aux mathématiques, aux sciences dites dures et à l'art, va nous faire du bien en termes de prise de conscience ou d'aptitude pour nos contemporains à embrasser une vraie thématique ou un vrai problème, un vrai mur que nous allons prendre de face, qui est la perte de la biodiversité et la perte des biens et services que l'océan nous rend.
Vous avez posé combien de capteurs à travers le monde et où ?
Des capteurs, on en a aujourd'hui en Antarctique, encore sous l'eau, pas mal à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Miquelon et à Langlade, voilà, pas mal au Groenland, et pas mal également au Spitzberg. Mais j'ai cessé d'aller au Mexique ou en Nouvelle-Calédonie, à l'île de La Réunion. Je m'intéresse vraiment à ces environnements plus froids et le fonctionnement des écosystèmes polaires ou subarctiques m'intéresse réellement.
Et toujours la Bretagne quand même ?
Je suis tombé amoureux de la Bretagne. Et c'est pas pareil, la Bretagne c'est pas la mer, c'est juste la mer sublimée.
Vous nous parliez des coquilles Saint-Jacques, des homards, etc. Sur combien d'espèces est-ce que vous avez travaillé à ce jour ?
Alors vraiment, la coquille Saint-Jacques a été quelque chose d'important, mais pendant très longtemps, j'ai panaché mes activités entre ce qu'on appelle de la biogéochimie, c'est-à-dire les cycles du carbone, les cycles de l'azote, de la silice, à l'interface aux sédiments, en plongée, où la philosophie était de plutôt descendre des laboratoires plutôt que de monter des animaux au laboratoire. Et là, on embrassait des peuplements, ce qu'on appelle les peuplements, une trentaine, quarantaine d'espèces simultanées. Je dirais que dans les grosses bestioles étudiées, il y en a une trentaine en tout, de façon individuelle, dans leur biologie ou dans leur comportement, une trentaine sur la planète.
Est-ce qu'il y a une ou deux voix de cet océan que vous avez captées, que vous aimez plus particulièrement ?
J'adore ces langoustes qui font des bourdonnements et qui ont une espèce d'organe dingue qui ressemble à une lyre ou à une mandoline avec des cordes et un archet qui présente au microscope électronique un aspect rugueux d'un côté et complètement lisse de l'autre, vous voyez, et qui provoque des modulations folles. Vous verrez qu'on ne peut pas rester insensible à ces langoustes qui se comportent comme des cigales.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes.
Vous aimez aussi le monde des artistes, mais vous êtes fan de jazz, des Berruriers Noirs, des Clash, et vous avez, je crois, inspiré la chanson de Miossec, Nous sommes.
Oui, j'ai tenté un jour de rencontrer Miossec, et une demi-heure après, il m'a invité chez lui avec une question de base qui était pourquoi on n'arrive pas, à l'échelle de Brest, à partager des savoirs universitaires sur ce port, et pourquoi on ne partage pas ces impacts du bruit. Et finalement, de la discussion est née cette chanson.
On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes.
Avant de nous quitter, Laurent Chauveau, la petite question rituelle du podcast. Quel est votre coin de prédilection où vous aimez vous connecter à l'océan ?
J'ai dû effectuer 2000 ou 3000 plongées dans ma vie. Et la plongée sous la glace en Antarctique est l'endroit de la certitude d'une poésie absolue de cet océan. Je me sens réellement à ma place dans un environnement sonore et dans des lumières tamisées juste fabuleuses.
Merci Laurent Chauveau.
Merci.
Et je rappelle le titre de vos livres, La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, paru aux éditions Équateur. On peut mentionner l'ouvrage collectif Impact des sons anthropiques sur la faune marine, paru chez Quae. Bien sûr, comme d'habitude, toutes les références sont à retrouver sur le site de l'émission De Cause à Effet, franceculture.fr. Et la série L'océan, notre sauveur se poursuit avec celle que beaucoup surnomment l'ambassadrice de l'océan, Françoise Gaille.